Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi le mot migrant? Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, c'est des gens qui viennent dans un pays, mais qui sont pas nés là. Ils viennent pas d'ici. Ils viennent juste pour migrer.
C'est des gens qui fuient leur pays.
Ils ont pas d'argent. Ils cherchent un travail dans d'autres pays.
C'est des personnes qui viennent dans un autre pays sans papier pour travailler et tout.
Les migrants, c'est ceux qui fuient leur pays. Genre la Palestine, la Syrie, le Pakistan et tout, et ils viennent chercher du travail dans les pays d'Europe.
Ben, c'est pas forcément des pauvres qui viennent, qui migrent. Ça peut être quelqu'un de assez riche.
Un migrant, c'est une personne qui vient d'un autre pays, soit pour trouver du travail ou à cause de la guerre ou quelque chose comme ça. Et il vient des fois sans papier.
Hein, c'est des gens qui fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions. Et ils viennent trouver la bonne condition ici en Europe, dans les Amériques, tout ça.
Nous sommes les 4e Babylone du collège Marc Seguin.
Nous avons interviewé David, qui est congolais et qui a migré en France. Nous l'avons rencontré dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire sur les médias et les thèmes des migrations.
Il témoigne de son expérience personnelle de son départ jusqu'à son arrivée en France.
Bonjour, quelle était votre situation personnelle au Congo ?
Ma situation personnelle au Congo, je suis professeur d'anglais de formation, mais j'ai travaillé quelques années dans l'enseignement, puis après je suis passé dans un projet gouvernemental où j'œuvrais pour la protection des monuments.
Pourquoi avez-vous quitté le Congo ?
Parce que j'avais été confronté à des problèmes politiques. Évidemment, l'immigration, chacun a une raison de quitter là où il est. Il y a ceux qui partent parce qu'ils ont faim, il y a ceux qui partent parce qu'ils ont soif, il y a ceux qui partent parce qu'ils ont des problèmes avec leurs opinions politiques, religieuses. Mais moi, je suis parti parce que je m'étais engagé en politique et que nous avions tenté de changer les choses. Mais ça n'a pas trop bien tourné pour nous. Et évidemment, c'est des situations que vous autres qui vivez ici en France, vous ne pouvez pas saisir. Aujourd'hui, quelqu'un il peut se mettre dans une place publique et il dit « le président Macron, c'est un imbécile ». C'est pas pour autant qu'on va le mettre en prison en France. Mais dans certains pays, il suffit de toucher à la personne du président, du premier ministre, et vous êtes dans des problèmes inimaginables. Donc, pour moi, ça a été un problème politique. Mais la plus grande raison où les gens ils vont émigrer dans les années prochaines, ça risque bien d'être les climats. Parce que si on ne fait rien et que les gens, là où ils sont, les situations climatiques se dégradent, ils seront bien obligés de bouger. On voit aujourd'hui avec tout ce qu'il y a en Libye, les Érythréens, les Soudanais qui traversent au niveau de la Libye, ils fuient la sécheresse qu'il y a dans leur pays. Entre mourir de faim et choisir d'aller ailleurs, je crois que le choix est clair. C'est le même choix qui s'est aussi imposé à moi, parce que j'ai eu à choisir ou soit rester en place. J'ai fait la prison, et peut-être que je ne serais pas sorti de cette prison, mais j'ai pris mon courage entre les deux mains et j'ai décidé de partir.
À quel âge avez-vous migré ?
Quand j'ai quitté mon pays, j'avais 34 ans.
Par quel pays êtes-vous passé ?
Quand il y a un mandat d'arrêt sur votre tête, c'est pas facile de se dire que je quitte un point A pour un point B directement. Donc j'ai eu à user des ruses pour éviter que je sois à la fois repéré, à la fois arrêté et à la fois rapatrié. Mes positions politique à moi était assimilée à un crime dans mon pays. Donc là où on pouvait me localiser, on pouvait très facilement émettre un mandat d'extradition pour que je puisse être renvoyé dans mon pays.
Avez-vous voyagé légalement ou illégalement ? Combien le voyage vous a coûté ?
La légalité aurait été que je me présente aux autorités qui me recherchaient pour dire que je suis là, arrêtez-moi. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai préféré fuir. Donc, dès la première traversée, j'étais déjà dans l'illégalité. Et ça coûte toujours de l'argent parce que quand quelqu'un comprend que vous êtes dans des problèmes et que vous vous cachez, que vous ne voulez pas que les gens savent qui vous êtes, eh bien, ils abusent, ils en profitent. Ces gens, on les appelle des passeurs. Eux, ils peuvent t'aider en te donnant de faux documents, de faux papiers qui peuvent t'aider à traverser les frontières. Donc, dans mon cas, je ne pouvais pas prendre l'avion chez moi parce que pour prendre l'avion, il y a un contrôle d'identité. Je suis du Congo-Kinshasa et il y a le Congo-Brazzaville à côté. Entre les deux pays, il y a un fleuve que j'ai traversé en pirogue pour arriver de l'autre rive. Et à partir de l'autre rive, j'ai pris l'avion pour atterrir au Mali. Et à partir du Mali, j'ai bifurqué sur l'Algérie pour remonter sur le Maroc. Et du Maroc, j'ai fait l'Espagne, la France. Ça coûtait de l'argent, ça coûtait énormément d'argent. Parce qu'à chaque frontière que l'on doit traverser, il faut toujours payer. Payer les passeurs, payer les policiers. Ici, ils ne sont pas corrompus comme chez nous là-bas, en Afrique, parce que les gens, ils ne sont pas si bien payés. Donc, quand vous arrivez à une frontière, la personne qui est là peut bien savoir que les documents que vous avez, ce n'est pas les vôtres. Mais lui, il s'est dit que c'est une bonne occasion pour lui, il peut se faire de l'argent.
Combien de temps après le voyage ?
J'ai procédé par étapes, par station. Évidemment, il y a eu des endroits où je n'avais plus d'argent et j'étais bloqué. Il a fallu travailler, il a fallu demander de l'argent ou qu'on vende tel de mes biens au pays pour qu'on puisse me renvoyer de l'argent. Donc, les trajets qui s'est fait en 8 heures d'avion, moi, je l'ai eu à les faire en presque une année. Il y avait aussi des questions où c'est que la frontière est vraiment bloquée et qu'on ne peut pas passer, qu'il faut attendre que la situation aille bien, aille mieux. Par exemple, quand j'étais au Mali, il y a eu cette histoire des rébellions, des djihadistes qui ont envahi le nord du Mali. Et ça fait que la sécurité a été tellement renforcée que j'ai été obligé à rester sur place. Le temps d'attendre que la situation se calme et que je puisse continuer mon voyage.
Avec quel moyen de transport avez-vous voyagé ?
Le voyage s'est fait par voie terrestre essentiellement. Et arrivé au Maroc pour faire la traversée en Europe ici, il y a plusieurs moyens qui s'offrent. Sur les territoires marocains même, il y a deux villes qui n'appartiennent pas au Maroc. Bon, c'est des histoires de la colonisation. Ces deux villes qui sont sur les territoires marocains sont des villes espagnoles en fait. Donc quand vous y arrivez, vous êtes en Espagne. Donc c'est pour cela, vous voyez, ils ont construit un mur. Évidemment, on rigole sur les murs de Donald Trump, mais il y a un grand mur qu'ils ont construit là-bas. Et ce n'est pas construit pour nous autres qui venons de loin. C'est construit d'abord pour les gens locaux, pour qu'ils ne puissent pas traverser la frontière comme ils veulent. Donc, il y avait cette possibilité de tenter par le mur. Il y avait cette possibilité aussi où il y a des passeurs, des trafiquants qui ont leur voiture, qui font les trafics Septa, Melilla vers le Maroc, qui peuvent te cacher dans leur voiture. Il y avait aussi la possibilité de prendre de nouveaux faux papiers. Et il y avait aussi l'option où on peut prendre les zodiacs pour traverser An-Haraga, comme disent les Arabes. Donc, pour moi, j'ai eu à essayer tous ces moyens-là et j'ai réussi ma traversée par les zodiacs. La distance entre le Maroc et l'Espagne, à l'endroit le plus proche, ça fait moins de 15 kilomètres.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant votre voyage ?
On a beau dire le racisme il est partout. Quand vous êtes étranger, vous arrivez dans le pays d'autrui, c'est pas forcément que vous êtes accueilli à bras ouverts. Et dans les cas où j'ai eu à rester, à traîner dans certains pays, ça a été des chocs culturels, ça a été des pressions raciales et tout. Ma plus grande difficulté, ça a été de voir les regards qu'ont les autres. Quand vous arrivez dans un pays et vous trouvez la pauvreté et que vous êtes obligé d'y vivre, cette, la dureté là, là où il faut chercher les pains, vous trouvez des gens qui sont localement là-bas, eux-mêmes ils souffrent plus que même tu n'as même pas idée, et que de là où toi tu es venu, tu avais une certaine vie qui était bien et que tu te retrouves du genre du jour au lendemain à chercher un morceau de pain et que tu te fais peut-être insulter pour ça. Ça a été la plus grande difficulté, le racisme tout au long du chemin.
Qui avez-vous rencontré pendant votre voyage ?
Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté un plus dans ma vie. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont escroqué, il y a des gens qui m'ont roulé, il y a des gens qui m'ont insulté, il y a des gens qui m'ont encouragé, il y a des gens qui m'ont poussé à avancer, il y a des gens qui m'ont retenu pour que je reste là. Mais la vraie richesse, c'est les hommes, quoi.
En quelle année êtes-vous arrivé en France ?
Je suis arrivé en France en 2015.
Par où êtes-vous passé en France ?
Donc, en traversant du Maroc, j'ai atterri en Espagne. Et parmi les gens que j'ai eu à rencontrer de l'autre côté, au Maroc entre autres, j'avais quelqu'un qui m'a dit que tu restes pas en Espagne, tu viens en France, il y a un cadre où les droits de l'homme sont mieux respectés et où ta situation politique pouvait t'aider à t'installer. Il y a la maîtrise de la langue, le français c'est une des langues que je maîtrise. Donc, il y a eu cet aspect de la langue qui m'a poussé aussi à venir en France. Donc, j'ai fait le bus Espagne-Paris, Paris-Saint-Étienne. Et je suis à Saint-Étienne depuis que je suis en France.
Comment avez-vous vécu le changement de paysage et de langage ?
Le choc n'a pas trop été au niveau de la langue elle-même, mais du langage, là, de cette culture. Nous, on apprend le français dans les livres. Donc on lit les livres, on lit des livres, on lit les livres, on apprend le français. Arrivé ici, on parle un français qui est tout autre. D'un côté, il y a un mélange d'arabe et de français. De l'autre côté, il y a des mots qui sont retournés dans tous les sens. On te dit que c'est du verlan. Quelqu'un, il te dit un truc presque gentil, mais en insultant ta mère des dents, quoi. Mais je me suis adapté. Les paysages, évidemment, je viens d'un pays où on n'a que deux saisons. Donc la saison de pluie et la saison sèche. Arrivé ici, il y a quatre saisons. Et le froid, ça n'a rien à voir avec chez nous. Le soleil même, ça n'a rien à voir. Contrairement à ce qu'on pense, il y a un soleil plus fort chez nous. Mais à chaque fois que le soleil tape, il y a l'humidité, il y a la pluie qui tombe. Or ici, quand il fait chaud en été, c'est vraiment il fait chaud, quoi.
Quelle était votre situation quand vous êtes arrivé en France et vos conditions de vie ? Et aujourd'hui, quelle est votre situation ?
Donc quand tu arrives, tu dois te présenter aux autorités pour dire que je suis sur les territoires français et je suis ici pour telle et telle raison. Donc j'ai été me présenter aux autorités, j'ai fait ma demande d'asile, j'ai exposé ma situation, j'ai fait mon récit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en attente d'une réponse qui peut être favorable ou défavorable. Mais c'est comme ça.
Avez-vous un travail aujourd'hui ?
Non, je n'ai pas le droit de travailler. Le droit au travail est les papiers qu'on donne en dernier.
Et comment faites-vous pour vivre en ce moment, quand vous n'avez pas le droit de travailler ?
Eh bien, j'ai une allocation que l'État me donne de 204 euros par mois. Et je dois vivre avec. Pour le loyer, je suis logé dans un foyer.
Êtes-vous retourné au Congo depuis et pourquoi ?
Je ne suis plus retourné au Congo depuis. Pourquoi ? Ben, quand vous faites une demande d'asile, si vous êtes accepté, vous avez tous les droits comme un citoyen français. Mais il y a un droit qu'on perd, c'est le droit de retourner chez nous. J'ai perdu mon droit de retour. Si vous rentrez chez vous, c'est que vous n'êtes plus menacé. Donc automatiquement, quand vous rentrez, on vous retire les papiers parce que vous n'êtes plus menacé. Et évidemment, avec la situation actuelle qui ne fait que s'empirer, c'est pas demain que je pense rentrer au Congo. C'est encore un peu inimaginable pour vous qui vivez ici, mais ce qui se passe chez moi, c'est genre que François Hollande, quand il est arrivé à la fin de son mandat, il dit qu'il n'organise pas des élections, il reste là. C'est ce qui se passe chez moi. Le président qui est là-bas, il est arrivé à la fin du mandat, il dit non, je ne bouge pas. Et évidemment, il y a ces problèmes parce que on a plusieurs minerais chez nous. On a les plus grandes réserves de cuivre, on a du pétrole, on est les premiers producteurs du diamant, on a du bois, on a tout. Mais pour notre malheur à nous, on est allé découvrir du coltan au Congo. Et le coltan, c'est les minerais avec lesquels on fabrique les portables, les écrans plasma, les batteries au lithium. Et donc tout ça là fait que les désordres qu'il y a là, les gens ils peuvent venir voler les minerais comme ils veulent. Et ils encouragent le président qui est là à rester sur place.
Mais vous avez fait quoi de grave pour être recherché pendant 2 ans?
Comme je travaillais dans un organisme qui gérait les monuments et tout, j'avais accès à certains plans. Et j'ai été approché par des gens qui ont voulu faire un coup d'État pour qu'on puisse faire tomber les présidents en place. Mais on a été trahis, on a été démasqués.
Si Marine Le Pen, elle serait arrivée au pouvoir, vous auriez fait quoi?
Personnellement, je ne pense pas que Marine Le Pen arrivera un jour au pouvoir. Là, ce n'est que mon opinion politique personnelle par rapport à ma lecture de la politique française. Elle n'arrivera jamais au pouvoir. Il y a beaucoup de racistes, mais ils ne sont pas encore en nombre pour arriver à faire 50% aux élections. Mais il n'y a pas que Marine Le Pen qui peut nous compliquer la vie ici. Donc, en tant qu'étranger, il y a d'autres candidats qui me font peur autant, si pas plus, que Marine Le Pen.
Cette interview nous a démontré que nous avions des préjugés. Au final,
nous sommes tous égaux, quelles que soient nos origines ou nos conditions de vie.
Les migrants cherchent juste la tranquillité, la paix et ne veulent pas de mal.
Certains migrants sont riches dans leur pays, instruits et cultivés, mais fuient des dictatures, les changements climatiques.
Tous les migrants ne sont pas clandestins et ne fuient pas leur pays.
Radio plein ciel, fais péter l'actualité.